Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous retransmet un enseignement de Madame Vanessa Benzaken. Bonne écoute et bon limoud.
Donc ça veut dire, il y a un phénomène comme ça, que parfois on vous donne des choses qui sont surchargées par rapport à la capacité d'absorption d'un enfant, ou par rapport à son âge, d'accord ? Alors je ne vous dis pas que vous allez faire avec ça la révolution du système éducatif, mais vous, parents, il faut être très éveillé sur ça. Pas vous dire, ah c'est nous, ça doit être nous. Non, vous rendre compte qu'il y a un phénomène comme ça. Vous recevez des fiches qui doivent réviser sur juste le Shabbat. Ouais, d'ailleurs Shabbat, normalement, il devrait avoir un peu plus de temps de qualité, mais bon. Et qui sont surchargés. Et quand l'enfant, le parent, il se dit, bah, c'est nous, on est français, on est... C'est pour rigoler, mais... Ça veut dire, le parent, il se remet, lui, en question. Ou c'est son enfant qui dit, pourquoi chez moi, il est venu, celui-là. Et c'est faux, tout ça. Tout ça, c'est des histoires. C'est qu'il y a effectivement un phénomène comme ça, qui surcharge, parce que ça donne plus de renommée, ça donne plus de noms, qu'on rend plus de chromères, et à la fin de l'année, on a couvert plus de... Je suis désolée, je parle de choses difficiles, mais c'est la réalité. Et qui c'est qui paye ? Les enfants. Pourquoi ? Parce qu'on est Shabbat. Shabbat, c'est Chavaya Chinochit. On doit être normalement Ronek Shabbat. Et on est là. Alors donc, qu'est-ce qu'il dit dans Moshe Rabbeinu, là, dans le... Alors là, il dit quoi ? Le petit, il n'en peut plus. Il dit comme ça. Très bien. Alors, dans la question 17. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans le... C'est pas chez vous, hein, vous savez très bien. Question 18. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas là? Question 19. L'encouragement, il n'y en a pas. C'est pas la peine. Pourquoi? En la nousman. Alors, nous rotsim gam lichon de Shabbat. Shabbat est très court et on veut dormir quand même. On n'est que Shabbat.
On oublie de dormir.
On dort plus. Je sais bien. Mais enfin, ceux qui pensaient quand même qu'ils avaient l'illusion que peut-être ils vont pouvoir dormir. Donc, on veut finir. C'est vrai que l'igmor, réfléchissons au gain et à la perte. On est en train de dire Moshe Rabbeinu. Maintenant qu'on est en train de dire Moshe Rabbeinu, normalement pour l'enfant, je sais qu'on n'est pas à ce niveau-là tout le temps, mais imaginez-vous, Moshe Rabbeinu, ça doit briller dans les yeux, ça doit être tellement quelque chose de kadosh, de important, que ça doit briller dans nos yeux et dans les siens. Mais par le mode de vie, par l'empressement, par le stress, tout ça, ça passe. Et ça change complètement la avira. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il a intégré ? Quand c'est une fois, c'est une fois. Mais quand c'est hebdomadaire, il ne peut plus la voir, la paracha. Je commence à toucher un petit peu à... Quand c'est le limoud, il faut apprendre les mishnayot. Alors il faut apprendre. Il n'a pas fini. Il faut... Alors ne pensez pas que c'est que le travail du papa. Hein, ça. Maman elle a un grand rôle dans ça. Par mes orpanim, par les encouragements, par le sourire, par ramener, pendant qu'ils étudient, un petit verre de jus d'orange et un bon gâteau. Voilà ce que c'est la Chavaya. Le Rav Dessler, il raconte dans Mirtam Eliyahu que quand ils avaient un rythme d'études phénoménal, son père et sa famille, c'est des gens phénoménaux, ils se levaient, Shabbat nuit, la nuit du vendredi soir, ils se levaient à je ne sais pas quelle heure, ils dormaient quelques heures, ils se levaient en pleine nuit, ils commençaient à étudier. Et le Rav Dessler, il dit, je me levais moi aussi, enfant. Il dit, mais je veux vous avouer quelque chose. C'est que les beignets que maman, elle nous mettait sur la table et le café chaud n'étaient pas étrangers à mon entrain à se lever vite du lit. Mais torcher l'olishma, il y a l'olishma. Parce qu'il y a quelque chose qui donne une bonne sensation, tu aides l'enfant à grimper là, sur la passerelle. Tout ça était entouré de bonnes sensations. Vous avez compris l'idée de la sensation, combien c'est important. Et nous, on parle au mental. Le mental du matin jusqu'au soir. Et on est à côté de la passerelle de transmission. D'accord ? Donc il faut qu'on comprenne l'enjeu fabuleux qui se tient ici. Il dit, c'est pourquoi, malheureusement, dans certains cas, on voit des bahourim, des jeunes gens qui sont vifs, l'esprit aiguisé, qui sont devenus complètement hermétiques au limoud, et des jeunes filles de qualité, filles bien, avec des bonnes midot, qui se retrouvent habillés pas vraiment comme on aurait souhaité. Comment c'est possible ? Parce que dans ces cas-là, ils ont été seulement pilotés. Il n'y a pas eu traîneur. Le pilotage, ça veut dire Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans la règle du pilotage? La discipline, les sanctions, les principes. Il n'y a pas eu d'intériorisation. La fille, quand est-ce qu'on s'est rappelé de lui parler de sa tsniout? Quand la jupe, elle n'était pas tout à fait à la bonne mesure. Grande erreur. C'était pas à ce moment-là qu'il fallait lui parler de tout le volet sur la tsniout. C'est au moment où elle est tsnoua. C'est à ce moment-là qu'il fallait lui parler de ça. Les brachot. Quand est-ce qu'on parle de l'importance des brachot? Pas vous, bien sûr, mais... Quand la brachot, elle est mal faite. Non, c'est important. C'est pas comme ça qu'on fait. Attends, refais. Tu manges tes mots. Tu vois là. Melachot Shabbat. Quand est-ce qu'on parle de Melachot Shabbat? Nous, on en parle quand de bonnes occurrences, évidemment. Mais dans le standard classique. Mais c'est pas comme ça, c'est Borer, c'est pas comme ça qu'il faut faire, voilà. Ah, ça vous fait rigoler, hein. Moi aussi. Mais le problème, il est que si on va sur la pente naturelle, c'est comme ça que ça va se passer. On va parler de Melachot de Shabbat quand il s'est trompé. On va parler de l'importance du limoud quand il n'a pas envie d'aller étudier. On va parler de l'importance de la pudeur quand elle a sa veste qui n'est pas tout à fait comme il faut. Et c'est exactement de l'anti-rimour. Parce que toutes les sensations qui vont avec, c'est pas juste l'information intellectuelle qui est en train de passer ici. Toutes les sensations d'humiliation, anira, anilotov, je suis quelqu'un de pas bien, etc. Tout ça s'inscrit avec le mode de vie qu'on est en train de leur transmettre. Et donc ce qui est terrible, c'est que de la même façon que l'ours, il croyait percevoir que la douleur, elle vient de la musique à la flûte. L'adolescent qui a passé un pilotage acharné, il croit percevoir que l'échec, il vient de ce mode de vie. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre les implications gigantesques qu'il y a là-bas. Et c'est pour ça qu'il va jusqu'à dire, on parle d'enfants problématiques, il dit « shaker ». C'est un grand mensonge. Il dit « neshamot teorot ». Il dit « rak ifilotam velochim chotam ». On les a pilotés de façon acharnée, ils n'ont pas été éduqués. Vous commencez à comprendre l'idée qu'il y a derrière. Oui. Le Rav dit, à l'inverse, quand on a réussi à mettre un conditionnement positif avec les mitzvot, là c'est le rêve. Le Rav Jacobson, il témoigne. Il dit « moi par exemple, quand j'ai passé des moments difficiles, et il en a passé des moments difficiles. Il y a eu des aventures rocambolesques avec des familles, des gens en difficulté. Tout ça. Il a passé des choses incroyables. Il dit, quand je sentais que je faiblissais, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, j'étais pas bien. Qu'est-ce que je faisais? Je prends une Gemara. Pourquoi il prend une Gemara? Il dit, parce que quand je prenais la Gemara, quand j'ouvrais la Gemara, l'odeur de la Gemara, regardez que tous les sens y sont associés, c'est pas du mental. L'odeur de la Gemara, tout de suite, à quoi il pense? À son père. Chez Ibarri. À son père, il dit, je revois, lorsque j'ouvre la Gemara, je vois mon père, à côté de moi. Gué, comme ça il dit. Pas juste il voit son père, il voit son père fier de lui. Anilomet Teire, comme ça il dit en hébreu. Son fils, il apprend la Torah. Il dit, par extension, quand j'ai la perception que mon père, il est là et qu'il est fier de moi, Akadosh Baruch Hu Samerhabi. Akadosh Baruch Hu aussi, il est content avec moi. Combien de gens ils doivent se battre aujourd'hui pour retrouver cette sensation que Akadosh Baruch Hu, il est content avec moi. Vous comprenez l'idée? Donc quand on a réussi le conditionnement positif, c'est extraordinaire. Extraordinaire, je tabarre ces mots. Donc là, on a mis en lumière donc ce qui s'appelle le phénomène de la atnaya, du conditionnement positif ou négatif. On a compris que le conditionnement positif, c'est l'élément clé du chinour. D'arriver à faire ça, c'est extraordinaire, parce que là, tu es passé en ligne directe du nefesh au nefesh. Et le conditionnement négatif, c'est l'ennemi numéro un, c'est le danger numéro un. D'accord? Arshav, le Rav, il nous dit, comment ça se fait, que même si tout ce qu'on présente là paraît d'une telle évidence, comment ça se fait qu'il y a tellement d'écueils? Et que tellement de gens, ils se laissent prendre au pilotage des années et des années, et ils ne changent pas de cap. Exactement, ils se pilotent eux-mêmes. Que je disais, quand tu fais affala avec toi seulement, c'est ce que tu, en règle générale, c'est ce que tu vas faire aussi avec les enfants. Comment ça se fait qu'on peut se faire prendre comme ça? Il a dit, parce qu'il y a quelque chose qui trompe l'œil. Ce qui trompe l'œil, c'est que lorsque des parents ils voient que des enfants, pendant des années, ils se comportent correctement, ils ne peuvent pas imaginer que d'un coup, à l'adolescence, ça peut éclater et partir de l'autre côté. Ils ne peuvent pas sentir venir la chose. Parce que il y a une impression générale que si pendant des années il s'est comporté d'une certaine manière, il n'y a pas de raison que ça change. Et cette impression, elle est véritable, mais elle ne prend pas en compte un certain élément. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Il dit, il y a un roc dans le Nefesh Adam que nous connaissons déjà, il s'appelle Adam Nifal Kefi Perotav. L'homme, il est façonné par ses actions. Donc ça veut dire, en fonction de ses actions, son intériorité se façonne. Si c'est comme ça, ça laisse une impression que si l'enfant, il fait beaucoup d'actions positives, il fait ses brachot, il va à la choule, il met ses tefillin, lorsqu'il fait toutes ces actions, ça donne l'impression, c'est bon, c'est réglé. Vous comprenez le trompe-l'œil où il est ? Mais qu'est-ce qu'on a oublié ici ? On a oublié un élément très important, que ça, c'est la première étape. Mais on ne sait pas encore ce qui se passe dans son cœur. Or, nous, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants ? Une avodat Hashem penimit. Une avodat Hashem qui est vécue dans le cœur, puisque tna bni librali, c'est l'essentiel, comme dit Shlomo HaMelech. Donne-moi ton cœur, mon fils. C'est ça qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, il veut ton cœur. Il ne veut pas un rituel de surface. Ce n'est pas ça, avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est quelque chose qui engage tout l'homme entier. Donc, nous, c'est ce qu'on veut. Il dit, anachnu rotzim sheyuyeh sheyu eved Hashem. Il dit, eved Hashem lo eved sheli. Pas mon serviteur à moi. Donc, ça veut dire que ça ne me suffit pas qu'il se comporte bien comme un pantin. Je veux qu'il le vive, je veux qu'il le ressente. Le Chafetz Chaim, il explique un petit machal qui met en lumière cette apparente contradiction. Il dit, c'est vrai qu'on a cette impression que si quelqu'un il s'est comporté de la même manière pendant des années, il n'y a pas de raison que ça change. Et pourtant, Anisayon Melamed, la vie montre que ce n'est pas toujours vrai. Et le Chafetz Chaim, il explique comme ça, il donne un machal sur les Cosaques. Ils marchaient mal. Les Cosaques de Russie. Il dit, ces Cosaques de Russie, ils étaient enrôlés à l'âge de 15 ans pour l'armée russe. Je vous ai fait voyager, Ils étaient enrôlés à 15 ans jusqu'à 40 ans. 25 ans. Maintenant, pendant ces 25 ans, je ne vous dis pas l'entraînement qu'ils leur faisaient. Et la course, et la levé en pleine nuit, machin, ils sautent dans la Volga, et des entraînements incroyables. Il dit, à tel point que c'est devenu une connaissance populaire, que si tu veux parler d'un quelqu'un qui est plus vite que l'éclair, plus vite, hyper zarise, hyper rapide, tu disais Cosaque, Cosaque russe. Malheureusement pour nous. Alors, le Chafetz Chaim, il dit, ces mêmes Cosaques russes, à l'âge de 40 ans, ils recevaient la retraite. Ils recevaient aux frais de l'État, pensia, une auberge où ils ont tout frais payé, manger, dormir. Il dit, on pourrait imaginer que quelqu'un d'aussi zarise et rapide, débrouillard, à 40 ans, il y a ses carrières à chenia, il dit en hébreu, qui va faire une deuxième carrière, il va faire du business, il va faire quelque chose d'autre. Il dit, et ce phénomène, il se retrouvait à chaque fois, que ces mêmes Cosaques, ils étaient, dès qu'ils rentraient à l'auberge là-bas, ils disaient gouche bassa. Apathique, complètement inactif, ils se mettaient à côté du chauffage et ils ne bougeaient pas de la journée. Le Rafi Chafetz Chaim, il demande, « Efo esrim vechamesh shana shel ritza ?» Où sont les 25 ans de course ?« Im adam nifal kefi peulotav ?» Si l'homme, il est fait selon ses actions, il y a une stira ici, il y a une contradiction. Tu m'as dit que selon ses actions, il est fait. Alors comment ça se fait que d'un coup, tout se retourne, et pas tout se retourne petit à petit, d'un coup ? Comment c'est possible ? Et il rajoute dans cette action, il dit, « Adam nifal kefi peulotav im uirtse ?» S'il veut cette action, s'il la veut cette action, elle va le façonner en retour. S'il la veut pas, s'il la fait contraint et forcé, elle ne le façonne pas. Pas juste elle ne le façonne pas. Rav Dessler, il parle d'un effet du kfitz. Kfitz, ça veut dire, ça crée un ressort. Paf ! Au bout d'un moment, lorsque la contrainte a disparu, ça explose d'un coup. Le Rav Dessler donne ce même exemple à ses élèves. Il avait donné cet exemple-là, le même principe. Lorsqu'ils sont passés, ils étaient dans un train avec ses élèves en Angleterre, ils sont passés devant un pénitencier anglais. Et Rav Dessler, il a dit, vous voyez, ces gens-là, qui habitent là-bas, dans la prison, il dit, ils font comme Chachamim, ils disent, pat, vemelach tochal, tu manges du pain et du sel, et dors à même le sol. Et il dit à ses élèves, et pourtant, ils sortent encore plus tordus que quand ils sont rentrés au pénitencier. Comment ça se fait pourtant ? Ils ont des rotraïm tzadikim, ouais. Ils mangent de l'eau, du pain, ils dorment par terre. Alors pourquoi ils sortent encore plus abîmés ? Ils disent parce qu'ils ne le veulent pas. Donc c'est pas l'action qui façonne l'homme tout court. C'est l'action choisie. Et ça explique pourquoi. Un adolescent qui a 14 ans de bons et loyaux services, de tfila, de brachot, de tzitzit, de toutes ces choses-là. Une fille qui a 15 ans de bons et loyaux services, de takanon, de tout ça. Khalil avait chaslo à l'énovelo à l'échec. D'un coup, paf, tout peut exploser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas suffisant de se soucier qu'il a fait, ou elle a fait, ou elle a agi conformément. Et là qu'il faut se soucier, l'écarev et zela lefshela. De rapprocher ça de son cœur. Ici, vous avez un exemple, encore une fois, pour illustrer davantage combien c'est important, combien ce n'est pas juste une option souhaitable de chassidout. C'est obligatoire de faire ce travail de chinour. Sans quoi, rien n'a été fait. Et pire que ça, c'est pas rien n'a été fait. Ils ont été implantés les germes du ressort. Parce que plus le temps passe et la personne elle fait contre son gré certaines choses, plus le kvitz il est en train de se renforcer. Le kvitz, vous avez compris, le ressort. D'accord? Alors, voilà. Donc, Nefesh Ibatrorin, il nous rappelle encore une fois, on peut forcer à faire beaucoup de choses, mais le Nefesh, il faut pas, on ne peut pas le forcer, il faut l'amener. Il faut l'amener avec amour, avec chaleur, avec encouragement, avec valorisation. Il faut le sensibiliser, l'enfant. Il faut le valoriser. Il faut qu'il se sente aimé. Voilà ce qu'il a besoin. Il n'y a pas besoin de grande pédagogie. Si on veut, Be'ezrat Hashem, réussir ce qui s'appelle le chinour, c'est-à-dire la passation des valeurs. D'accord? Certains écueils de très en grande envergure. Oui.
Toute la question se pose aussi. Il y a aussi un autre domaine, c'est que des fois on sent qu'il y a comme un test des limites.
C'est-à-dire, okay.
Donc c'est à ce moment-là que souvent la question elle se pose vraiment. Parce que on sent que l'enfant, il veut qu'on lui mette la limite et qu'on le guide. Il va essayer peut-être même de pas faire pouvoir pour tester. C'est-à-dire,
bien sûr, Bochen Boulot.
C'est-à-dire, on dit que c'est qu'au moment où il va faire bien qu'on va l'encourager. C'est-à-dire, des fois, il a besoin qu'on le recadre. Quoi. C'est-à-dire,
ça ne contredit pas. Ce qu'on a vu précédemment dans la discipline, ça va avec tout ça. L'enfant, il a besoin de repères, il a besoin de règles, il a besoin d'être dirigé. Je vous disais, lorsque l'enfant s'est mal comporté, il faut le diriger. Pas tomber dans les sermons moralisateurs. C'est tout. C'est tout. D'accord. Et quand on fait ça, tout le monde est en paix. Ça veut dire que tu as fait aussi bien la gvoura, aussi bien le chesed, aussi bien l'amour, aussi bien les gvoulot. Tout est là. Simplement, il ne faut pas glisser dans la moralisation, c'est tout. Et c'est ce qu'il dit maintenant ici, justement. Il dit la Yirat Shamaim, par exemple. On dit Akol Mishamaim, Chutz Meirat Shamaim. Tout est Mishamaim, sauf la Yirat Shamaim. Donc attends, c'est quelque chose de très très important au niveau transmission éducative, la Yirat Shamaim. Le Ravi dit, quand est-ce qu'on se rappelle de parler de Yirat Shamaim? Quand il y a eu un problème. Non, je ne parle pas de vous, les tzadikotes. Je parle du peuple, vous savez. Quand il y a eu un problème. Même dans le système éducatif, pareil. Et c'est Yirat Shamaim, c'est Bat Bet Yaakov. Et faut Yirat Shamaim, Shelach. Comme ça, il parle. Ou un bachour. Et faut Yirat Shamaim. Une fois, quelqu'un, un bachour, est venu voir le Rav Yaakovson. Après toutes les conférences, il le suivait, il voulait à tout prix l'attraper, parler avec lui. Au bout de je ne sais pas combien de tentatives, il a réussi enfin à l'attraper 2 minutes à côté de sa voiture. Et il lui a dit, je ne dors pas les nuits, j'ai besoin de vous parler, Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais faire la Tunisienne, mais ce n'est pas comme ça. Il lui a dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Alors il lui a dit, voilà, j'ai quelque chose qui m'empêche, qui m'enlève le sommeil. Je suis un bachour, j'étudie, je suis considéré comme un bon bachour dans la yeshiva, même Jean Spitz, un très bon bachour. Il dit, mais j'ai quelque chose qui m'embête. Et que je dors mal la nuit à cause de ça. Il dit, En li shemetz shel Yirat Shamayim. J'ai pas un brin de Yirat Shamayim. Le Rav, il a dit, cet exemple-là, c'est pas un exemple qu'on a eu comme ça. C'est beaucoup d'exemples de jeunes filles extraordinaires, de jeunes garçons magnifiques, qui sont convaincus qu'ils n'ont pas un gramme de Yirat Shamayim. Le Rav lui a bien sûr cassé toute l'histoire en lui disant, mais regarde, si tu me cherches déjà des semaines et des semaines, si tu ne dors pas la nuit à cause de ça, il dit, Siman sheyesh lecha amon Yirat Shamayim. Ça montre que tu es quelqu'un qui est plein de Yirat Shamayim. Alors pourquoi quelqu'un qui est plein de Yirat Shamayim, il arrive au point où il est convaincu qu'il n'y a pas un brin de Yirat Shamayim? Parce que dans la nature des choses, quand est-ce qu'on parle de Yirat Shamayim? Quand il y a eu un manquement. Quand il y a eu un problème. Au lieu de parler de Yirat Shamayim quand il vient de bien agir. Mais ça ne sort pas. Moi, je sais que quand j'ai commencé à le faire, je me trouvais un peu rigolote. Ouais. Quel Yirat Shamayim. Regardez comment elle fait mincha, Yirat Shamayim. Alors, j'ai envie de rigoler moi-même, parce que ça fait très artificiel, parce que ça va venir naturel. Mais c'est ça l'idée. Regarde comment il fait Netilat Yadayim. Regarde avec cette précision, quel Yirat Shamayim. Ah. Regarde comment il fait bien ceci ou cela. Regarde cette Yirat Shamayim. Voilà, c'est comme ça qu'on véhicule la Yirat Shamayim. Pas quand il s'est trompé, et pas quand il a échoué, et pas quand elle s'est trompée. Parce que le problème de la résultante de ça, d'une pente naturelle, c'est une pente naturelle, c'est pas quelque chose que quelqu'un il a programmé de faire comme ça. La pente naturelle fait que l'enfant, il a un conditionnement négatif avec la Yirat Shamayim. Vous comprenez comment, avec de bonnes intentions, et pas forcément un programme maléfique, Ras Vechalom, la personne, elle peut facilement se retrouver dans un écueil comme celui-là. Et quand je parle de la Yirat Shamayim, je parle de toutes les valeurs en règle générale. N'est-ce pas? Je vous ai déjà suffisamment parlé de tout ça. En parler en contexte positif. Et quand il faut des gvoulotes, comme vous dites, quand il faut le recadrer, on recadre. Ici, il n'y a pas, une question de laisser faire les afkir, de faire tout efker. Pas du tout. On ne doit pas se comporter comme ça. On ne doit pas faire ça. On cadre. Mais pas...
Le cours est terminé. Nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox www.torah-box.com trois enseignements de judaïsme par des rabbanim différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.